Alors, visiblement, la table ronde a un double titre, puisque le titre pour lequel nous étions venus, c'était Littérature jeunesse et vulgarisation scientifique. Et là, le titre que nous avons, c'est Littérature jeunesse et innovation technologique. Je propose que nous parlions un peu des deux, si ça va tout le monde ici. Voilà. Donc, vous aurez une double table ronde, deux en une, vous ne serez pas venus pour rien. Et je vais de ce pas vous présenter notre panel, qui est assez équilibré, donc j'aime bien. Il y a vraiment de tout. On va commencer par tout au fond, le seul homme de la tablée, Hervé Jubert, qui est un auteur assez plus que reconnu pour ses séries jeunesse, la série Blanche, la série Monstre, dans lesquelles il mêle aussi bien donc, de la science, du roman d'aventure, du thriller, du fantastique. C'est très addictif. Et une série plus adulte qui décrit un 19e siècle magique semi-alternatif. C'est les enquêtes de l'inspecteur Beauregard et ça vient d'être réédité chez Folio SF. Donc ensuite, nous avons Estelle Blanquet, qui est la plus scientifique de notre groupe, qui, elle, s'occupe essentiellement de vulgarisation scientifique à partir de grandes œuvres de la SF notamment. Elle explique des grands principes de science à un public de jeunes et de moins jeunes. Voilà. Alors, elle a un parcours très prestigieux que je dois un petit peu me référer à mes fiches pour le coup, parce que beaucoup de titres, enfin, donc passer notamment à l'Université de Bordeaux, à l'ESPE d'Aquitaine, agrégée de physique, enfin bon, voilà, on va la faire rougir un petit peu. Après, nous avons donc Michèle Laframboise, qui, elle, nous vient du Québec, de l'Ontario, et qui est, elle aussi, scientifique à la base, et qui va nous parler, donc, je pense, de sa formation scientifique et qui, après, est devenue aussi auteur de science-fiction jeunesse avec des séries et des one-shots que vous voyez un peu là. Donc, la série de la quête de chasse, une série aussi de space opéra bien déjantée qui s'appelle Les Voyages du Jules Verne. Le Jules Verne est un vaisseau, dans ce cas-là, ce n'est pas la grande figure nantaise, qui a été bardée de prix donc, de l'autre côté de l'Atlantique. Et qui aussi donc, a en roman Les Nuages de Phénix, qui parle de colonisation de planètes lointaines et de changement climatique. Et enfin, nous avons Agnès Marot ici, qui elle est auteure, éditrice freelance, qui travaille beaucoup avec des jeunes auteurs, qui parle très bien à un jeune public et qui parle vraiment de ce qui se passe en science aujourd'hui, notamment avec son roman chez Gulfstream dans la collection électrogène IRL, qui donne une vision vraiment pertinente et à la fois très particulière des mondes virtuels et des intelligences artificielles. Donc, ma première question va être, déjà vous, quand vous étiez jeune, ou enfant en tout cas, est-ce qu'il y a des romans, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont aidé à découvrir la science ?
Je commence ?
Oui, vas-y.
Alors, en fait, mon premier choc littéraire, ça a été Jules Verne, par les images, pas par les textes. Après, j'ai commencé, enfin, les images merveilleuses du Nautilus, de l'Albatros, des scaphandriers qui marchent au fond de l'océan, etc., etc. Et dès que j'ai su lire, j'ai essayé de lire Jules Verne, et j'ai tout de suite été complètement largué par la science. Et en plus, très attiré par le fantastique immédiatement. Donc, en fait, je ne suis pas du tout scientifique dans mon écriture. J'ai essayé de temps en temps de lire de la SF, de la hard science, de m'intéresser aux innovations, machin, etc. Mais je ne comprends pas. Donc en fait, je ne suis pas du tout scientifique. Je suis désolé.
Et je pense que vous, Hervé Jubert, vous lisez des revues scientifiques, mais c'est un peu particulier, des revues scientifiques du 19e.
Bah oui, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est des revues qui s'appellent Le Magasin Pittoresque, Le Valeur Illustrée, La Nature. Où ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a... La moitié des textes, alors il y avait c'était des parutions hebdomadaires, la première moitié c'était des romans feuilletons et l'autre moitié c'était des articles, et dans ces articles il y a des loufoqueries d'ingénieurs verniens et des inventions qui verront jamais le jour, mais j'aime la science du 19e pour ça, parce que jusqu'à la guerre 14 il y a une espèce de facilité d'invention et de féerie, on se dit tout est possible et on y va quoi. Et ça s'arrête, il y a un grand coup d'arrêt net à la guerre 14 où on reprend les choses à zéro, on passe aux choses sérieuses et voilà. Donc le 19e pour ça est merveilleux.
Bah, même question pour Estelle. Blanquet.
Alors moi j'ai pas souvenir vraiment de littérature jeunesse. Enfin oui, j'ai lu Jules Verne, mais c'est pas mon waouh le Jules Verne en fait. Je pense que j'étais Oh, je ne sais pas, c'était à lire, c'était intéressant, mais je n'ai pas eu de choses très, très marquantes avec Jules Verne. En revanche, je me souviens très jeune, trop jeune sans doute, d'avoir lu Dune d'Herbert. Et là, c'est la claque. Là, on se prend un univers impressionnant. Et puis, c'est bon, je l'ai lu, on était encore au... En tout cas, la notion d'écologie n'était pas encore une notion aussi diffusée qu'aujourd'hui. On se prend des vaisseaux spatiaux, on se prend du clonage, on se prend, enfin voilà, d'une. Et c'est pas un roman pour les enfants. Je l'ai lu quand j'étais très jeune. Et il m'a embarqué dans la science-fiction. Et évidemment, après avoir lu Dune, évidemment, on lit la suite de Dune. Et puis, on découvre ce que c'est la science-fiction vraiment. Et puis, on va dans les bibliothèques. Et puis, on trouve les bouquins d'Auré, par exemple, à couverture argentée, et Ailleurs et Demain. On découvre les Asimov. Et puis, ça y est, c'est parti.
Dans mon cas, c'est mon papa qui avait dans sa bibliothèque les marabouts, la collection fantastique de marabouts, donc les couvertures noires, très noires. Et un des premiers que j'ai lu, ça s'appelle « La fin d'Ila » de José Moselli, un livre qui date d'ailleurs des années 10 ou 20, là, très, très, des années 20. Et ça m'avait impressionné. J'étais enfant encore quand j'ai lu ça. Parce que vraiment, la description de ces villes en guerre, des villes enterrées, des gens qui ne mangent pas, mais qui reçoivent leur nourriture par les pores de la peau, par le système de ventilation, enfin, il y a toutes sortes de choses qui m'avaient impressionné. Et plus tard, un peu, je dois mettre quand même les robots d'Isaac Asimov avec les trois lois de la robotique sont aussi venus très tôt dans ma vie me faire découvrir la science-fiction.
Du coup, pour ma part, c'était plutôt l'inverse. En fait, je lisais pas de science-fiction. En revanche, toute ma famille était baignée dans la science et c'est tous des scientifiques. Donc, je suis plutôt venue à la science par ma famille et j'ai plutôt découvert la littérature de fantasy et d'imaginaire qui me permettait un peu d'échapper à ça. Et je suis venue à la science-fiction beaucoup plus tard. En fait, j'ai fait des études de sciences un peu forcées. Et après, je suis partie en lettres. Et du coup, pendant toute une période, j'ai un peu fait un rejet complètement de la science. Et je suis revenue à la science au moment où je me suis mise à écrire, où je me suis dit que peut-être mes deux formations pouvaient aller ensemble et que c'était un peu dommage de les séparer. Et donc après, en lecture marquante de science-fiction, j'ai eu quand même, quand j'étais assez jeune, le cycle d'Ender qui m'avait beaucoup marquée. Il y a eu La nuit des temps de Barjavel. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui m'a amené à la science-fiction. C'est plutôt un cursus, une affaire plus personnelle.
En fait, j'ai l'impression quand même que dans pas mal de références que vous me citez, bon, Jules Verne, c'est un peu de la littérature jeunesse, mais c'est de la littérature très tout public. Et vous me citez des références plutôt de littérature quand même assez adulte. Est-ce que ça veut dire que quand vous étiez jeune, bah, vous n'avez pas l'impression de pouvoir trouver de la littérature jeunesse de science-fiction ? Et est-ce que les choses ont changé aujourd'hui pour vous ?
Rapidement, oui, il y en avait très peu quand je grandissais. Et c'était des histoires de petits gars courageux puis de petites filles chiffons. Alors, je ne lisais pas cela.
Moi, effectivement, pas spécial. Déjà, il n'y avait pas spécialement de littérature jeunesse. Ou alors, c'était vraiment très jeune. C'était plutôt 10-12. Ça commençait un petit peu la littérature pour adolescents, mais... c'était pas encore très, très connu. Alors, du coup, ce que je faisais, c'était que j'allais avec mon frère dans les rayons de fantasy, on raflait tout, on s'arrangeait entre nous pour savoir quel tome on allait prendre de la série. Mais c'était effectivement plus adulte à l'époque. Peut-être que maintenant, il serait classé en jeunesse, cela dit. Mais les personnages étaient adultes, il y avait assez peu de personnages adolescents. Or, maintenant que je suis adulte, je ne lis quasiment que des romans avec des personnages adolescents. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu quand même un changement de tendance.
Ouais, mais pareil, enfin, c'est vrai qu'il n'y avait pas de littérature jeunesse, mais c'était bien parce que nous, ça nous a forcé à transgresser les interdits. Bah, tu parlais de la collection Robert Laffont, c'était la présence du futur, c'est ça ? Ailleurs et demain, pardon. Et moi, je me souviens à l'âge de 10-11 ans, lorgnant sur ces couvertures argentées ou dorées, en piquant un à la médiathèque, enfin à la bibliothèque de l'époque, lisant, je crois que c'était le Gambit de Klein ou. À l'époque, j'ai rien compris, mais ça avait une valeur de grimoire, tellement c'était opaque, et ça m'a attiré justement vers, ça m'a attiré vers le haut en me disant, mais ça existe, je comprends rien, mais ça a l'air vachement intéressant. Donc on se le met de côté. Et...
Donc en fait, quelque part, ce qui attire le jeune lecteur vers la science, c'est de présenter la science comme mystère. C'est le mystère de la science qui est attirant pour vous.
Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire ça. Je pense aussi qu'il y a des différences entre typiquement la France et les États-Unis. Je vais parler de mon dada, c'est Heinlein. Allez, je me lance tout de suite. Mais typiquement, Robert Heinlein a, pendant une dizaine d'années, écrit tous les ans un roman à destination de la jeunesse, qui délibérément, c'était un projet, hein, c'était son projet. Il avait envie aussi de faire en sorte que les jeunes aillent dans l'espace, que l'espace devienne quelque chose d'accessible pour tout le monde. Et d'ailleurs, il s'est arrêté d'écrire des juvéniles au moment où, fondamentalement, on a lancé le programme Apollo. Mais ces romans délibérément intégraient des éléments scientifiques, et pas seulement du contenu, parce que souvent, quand on pense vulgarisation scientifique, on pense au contenu scientifique. Il n'y a pas que le contenu, il y a aussi la démarche. Il y a comment on fait pour découvrir de nouvelles connaissances, comment on fait pour s'assurer de la fiabilité des connaissances qu'on construit. Et tous ces éléments-là, il les faisait passer à son public avec des héros qui étaient essentiellement des héros masculins à l'époque, parce que fallait vendre, hein, l'objectif d'un auteur, c'est quand même de gagner des sous aussi, hein, il faut qu'il vive. Mais avec, alors qu'à l'époque, là je vous parle des années 60 et même 50, on était à une époque où effectivement il fallait que le héros quelque part soit un garçon, mais systématiquement derrière, ou quasi systématiquement, si vous regardez, il y a une fille qui est autrement plus maligne que le garçon et qui essentiellement arrive à avoir ce qu'elle veut, et l'aide et le... Et essentiellement et l'héroïne cachée en fait, qui permet une identification à la fois des garçons et des filles et une modification des représentations sociales de l'époque. Donc on a eu des on parle d'Heinlein, c'est quand même le papa de la science-fiction moderne, hein. On a eu des œuvres très ambitieuses du côté des États-Unis. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure il y a eu l'équivalent en France. Il nous manque Simon Bréant dans le panel pour nous raconter ça. Mais ce que je sais par contre, c'est que les traductions de Heinlein en français, les traductions de ses juvéniles, ont été largement sabrées au niveau de tout ce contenu-là. Récemment, Gérard Klein a ressorti les juvéniles d'Heinlein en français et il a fallu retravailler les traductions. Parce que pour le traducteur français, un kilo et un litre, c'est pareil. Ben non, on n'a pas besoin d'un litre d'oxygène par jour. Par contre, oui, un kilo, on en a besoin. Et tout ce travail qu'avait fait Robert Heinlein a été littéralement passé à la trappe avec des passages entiers de 4, 5, 6 pages qui disparaissaient parce que c'était trop technique, vous comprenez. Donc voilà, je pense que sur la littérature jeunesse, on a eu des choix qui ont été faits à un moment en France, sur certaines œuvres en tout cas, parce que je n'ai pas la connaissance générale du champ, mais qui ont peut-être fait que les gamins ne trouvaient pas là la nourriture qu'ils auraient voulu avoir, et du coup ils la prenaient ailleurs, et c'était chez les adultes. Sans compter qu'effectivement, comme tu disais, le fait d'aller chez les adultes et puis de récupérer des livres qui avaient un petit goût d'interdit, ça motive.
Alors là, je pense qu'Estelle, vous soulevez un point très intéressant. Quand on veut parler de science ou d'innovation technologique à un jeune public, est-ce qu'il faut quelque part avant tout mettre en avant le côté détente ou le côté humour, enfin notamment Michel Laframboise utilisait beaucoup l'humour dans vos romans, ou est-ce qu'on peut vraiment aller à fond dans donc le côté très scientifique, est-ce qu'on peut avoir un fond scientifique très important, est-ce qu'il faut quelque part se mettre des barrières, ou est-ce qu'au contraire plus on en met, plus le lecteur est content?
Pour ma part, j'avoue que quand je lis un roman de SF, les pages et les pages de description de la technique du vaisseau, comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne, etc., c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je m'intéresse beaucoup plus au héros, à ses émotions, à comment il va pouvoir se servir de ce vaisseau, ou là, en l'occurrence plutôt des nouvelles technologies, donc des jeux vidéo, etc. Je pense pas qu'il faille se mettre des limites, parce qu'on peut, je pense, parler de tout tant qu'on le fait bien, en fait. Mais je suis pas sûre que ce soit pour ça qu'on lit de la SF. À mon avis, on lit de la SF vraiment pour se faire plaisir, pour pouvoir. La SF est très intéressante parce qu'elle nous permet de développer des choses qui n'existent pas encore, mais qui pourraient exister, et qui, du coup, nous permettent de parler de choses de notre société en allant plus loin, en les poussant jusqu'au bout. Et je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant, en tout cas pour un lecteur adolescent, c'est cette découverte du monde, de l'avenir, ses réflexions, les questions que ça pose sur les émotions des personnages, plutôt que l'aspect technique. Ce qui n'empêche pas d'être crédible et de faire des recherches pour ne pas raconter n'importe quoi non plus quand on utilise une technologie qui pourrait exister ou qui existe déjà.
Est-ce qu'il y en a dans la salle qui, en ce moment, sont en train de manger une tablette de chocolat? Levez la main. Ou qui en ont déjà mangé. La science-fiction, c'est du chocolat. Le chocolat, c'est composé de deux choses. C'est composé de cacao qui est très amer. Ça, ce sont les sciences, les idées, la méthode scientifique, les choses qu'on essaie en général de passer dans un roman. Et le sucre? Le sucre, ce sont les péripéties, l'humour et les personnages attachants. Ce qui fait que les deux ensemble font du très bon chocolat. Et certains d'entre vous vont préférer, plus de péripéties, pas trop de nouvelles choses ou de thèmes. D'autres vont préférer du chocolat plus amer. À 80 % de chocolat, il goûte différent. Et chacun des auteurs, donc, choisit sa façon de composer son chocolat.
Et dans ce cas-là, Estelle Blanquet, vous qui vous servez donc de beaucoup de chocolat pour faire passer la science, c'est-à-dire de beaucoup de headlines pour expliquer des phénomènes scientifiques, pourquoi justement partir de la littérature? Qu'est-ce que ça apporte en plus dans votre démarche?
Alors, bon, déjà pourquoi Heinlein peut-être? Heinlein est un auteur qui joue avec la science, mais pas qu'avec le contenu, avec la démarche. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas de côté amer à la science. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, je ne vois pas ça comme un mélange de deux choses différentes. Je vois ça comme un tout. En gros, ces romans n'existeraient pas sans l'élément scientifique, sans la méthode scientifique qui les traverse. Maintenant, pourquoi utiliser de la littérature pour... Moi, je l'utilise pour enseigner les sciences. Je travaille avec des enseignants qui sont des enseignants du premier degré, donc des futurs instits, qui, à 84-86%, ont un background qui n'est pas scientifique. Ils ont arrêté de faire des sciences à 15-16 ans, en seconde, quoi. Et ils n'ont pas une appétence plus que ça pour la science. Ils en ont un petit peu peur. Et la littérature, c'est un moyen... Ça, ils connaissent, la littérature. Et c'est un moyen aussi de les raccrocher et de leur donner envie. Alors, littérature de science-fiction, mais aussi images de science-fiction. Moi, j'utilise pas mal d'images de Manchu, qui est un grand illustrateur de SF... Vous allez à la librairie, vous verrez des tas de couvertures qui sont signées de lui. Et le jeu avec ça, c'est de rentrer par la littérature et d'interroger les événements qui ont lieu dans les bouquins. On peut utiliser aussi des ouvrages qui, a priori, contiennent relativement peu de science, de contenu scientifique, mais qui intègrent des éléments de démarche. Typiquement, demain, si vous venez, je serai là avec des petits de CM1, CM2, et on va travailler à partir d'un ouvrage de Roland Wagner qui s'appelle Honoré a disparu. Honoré, c'est un cochon. Et il y a toute une histoire autour de ce cochon. Et franchement, c'est pas évident comme ça de se dire mais où est la science là-dedans? Mais pourtant, il y en a. Il y a de la méthode scientifique, il y a de la démarche scientifique. Et donc, tous ces éléments-là, c'est ces éléments que moi j'utilise et que je peux utiliser dans un roman. Pour faire avancer le schmilblick. Essentiellement, je travaille en démarche d'investigation. La démarche d'investigation, c'est on crée une situation intrigante. Et à partir de cette situation intrigante, on essaye d'avancer. On n'est pas d'accord sur le pourquoi et le comment, et on avance à partir de ça. Et les situations intrigantes, les auteurs de science-fiction, ils en créent plein. Et à partir de là, on joue sur le « est-ce que c'est possible ? » Qu'est-ce qui est possible dans tout ça ? Et la réponse suivante, c'est comment on va faire pour savoir ? Et pour savoir, on va essayer. Donc on relie l'imaginaire au réel.
Et justement, vous dites que vous arrivez face à un public, enfin, sauf si Hervé veut réagir, vous arrivez face à un public qui, pour vous, donc, connaît encore très peu la science. Est-ce que vous pensez que donc, le public d'aujourd'hui connaît aussi peu la science que le public d'il y a 20 ou 30 ans, ou que maintenant, quand même, on a des jeunes pour qui certains concepts sont des évidences? Par exemple, à vous, Agnès, vous êtes... vous travaillez beaucoup avec des jeunes auteurs, notamment aussi dans le collectif Cocyclix. On sent que vous avez vraiment une sensibilité très proche de votre public adolescent. Enfin, vous êtes vraiment en osmose avec votre époque. Est-ce que vous pensez que le public d'aujourd'hui est aussi peu scientifique que le public de Jules Verne, peut-être, ou est-ce que les ados ont quand même une réceptivité plus grande de nos jours aux questions scientifiques ?
Je pense qu'ils sont scientifiques sans le savoir, en fait. Parce qu'ils ont tout simplement, ils sont nés, enfin, je suis née avec la technologie, avec moi j'ai vu le développement des tablettes, des téléphones, etc. J'étais encore assez jeune pour que ça me paraisse normal à l'époque. Je le vois encore plus sur mon neveu qui a su utiliser une tablette avant de savoir parler ou marcher. Vraiment, il y a ce côté savoir utiliser. Alors. Plus le fruit de la science que la science elle-même, mais c'est quand même une démarche déjà qui leur permet d'apprendre, voilà, à essayer de la prendre en main, de se rendre compte qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et c'est un gros développement aussi des réseaux sociaux, des forums, du coup, du monde virtuel, qui n'est en soi pas de la science, mais qui est quand même, qui fait partie d'un univers scientifique, puisque c'est des nouvelles technologies et quand on vit en général, qu'on passe beaucoup de temps sur les jeux en réseau, ce genre de choses, on a souvent cet attrait et cet intérêt pour ce qui va sortir. Et du coup, c'est déjà une démarche, je pense, de curiosité scientifique, même si on ne cherche pas forcément tout de suite à savoir comment ça fonctionne.
Je dis qu'aujourd'hui, la génération baigne dans les sciences, dans les applications, mais il y a un champ d'attention, un temps d'attention qui est plus limité qu'avant. Je le vois avec mon propre rejeton. Donc, dans vos romans jeunesse, lorsque vous décrivez les longues descriptions de toutes les énumérations, les longues énumérations de tous les poissons qui passent devant le hublot du Nautilus que décrivait Jules Verne, et qui est à peu près 3 pages, là, on fait moins ça en littérature jeunesse. Disons que c'est bon d'écrire des histoires où il y a au moins quelque chose qui se passe, auquel le lecteur ou la lectrice peut se raccrocher. Juste de donner un exemple, la quête de chasse, c'est un adolescent dans une civilisation de super jardiniers, puis le gars, il est colérique, mais généreux. Alors, il fait des bêtises, il est impulsif. Mais il va devoir réparer, et parce qu'il fait des bêtises, une grosse bêtise dans cette histoire, ça peut justement accrocher des jeunes qui peuvent avoir des difficultés dans la vie.
Oui, parce que à quel public finalement s'adresse pour vous avant tout un roman jeunesse de science-fiction? L'idée, est-ce que c'est de parler à un public qui est déjà un peu conquis, qui est un public donc de geek ou de nerd, ou est-ce qu'avant tout vous cherchez à vous adresser à un public vraiment très large? Par exemple, Hervé Jubert, quand vous reprenez le 19e siècle, donc pour votre série de steampunk, est-ce que vous faites attention à ce que même des gens qui connaissent rien au 19e siècle puissent entrer dans votre série? Est-ce que c'est important pour vous?
Alors moi, mon principe premier, c'est appel lecteur. Voilà, quel que soit le projet, fantastique, polar, aventure, on mélange, c'est l'attraper par la veste, le tirer et l'empêcher de sortir du bouquin. Donc il faut, pour ça, il y a chacun ses recettes. Alors ça, c'est on est dans l'écriture, c'est diluer les éléments, frustrer, c'est pas écraser d'informations. Donc là, au niveau scientifique, effectivement, faut saupoudrer. Quand moi, j'utilise beaucoup la science historique, j'adore l'histoire. Ça fait peut-être partie du sujet, j'en sais rien, mais donner envie d'eux, faire peur, que le lecteur s'identifie au personnage. Et c'est ça le but premier. Voilà. Si ça, c'est réussi, c'est bon, c'est tout.
Moi, je voudrais vous partager une stratégie d'auteur qu'a utilisé Heinlein. Alors, le livre en question, c'est Le Vagabond de l'espace. Fondamentalement, c'est un gamin qui rêve d'aller sur la Lune. On va sur la Lune si on a des sous ou si on est scientifique, hein, mais on y va. Et il récupère une combinaison spatiale, il la remet en état, et puis à partir de là, il va lui arriver des tas d'aventures, il va aller très 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 loin, il va aller sur Andromède. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à un moment, donc on peut le lire vraiment au premier niveau, comme une histoire d'aventure. C'est une histoire d'aventure. Ça, c'est le premier niveau. Un gamin qui est juste, et je rebondis sur ce que disait, qui est juste sensible au sens de l'aventure, au sens de l'émerveillement lié au fait d'aller dans l'espace et de rencontrer des extraterrestres avec des gros méchants, il a tout ça. Il l'a. Et il peut juste en rester là, s'il veut. Maintenant, Heinlein est subtil. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va intégrer dans son roman des éléments qui sont... Alors bon, ce gamin a un papa un peu génial. Il est dans une école où essentiellement on lui donne rien à manger. Et le papa s'en rend compte d'un coup, il lui dit « Bon, si tu veux vraiment aller dans l'espace, il faudrait peut-être que tu saches ça. » et lui explique les contenus qu'il devrait maîtriser pour pouvoir réaliser ses rêves. Et donc, pour un enfant qui lit ça et qui, éventuellement, n'a pas la bonne école ou n'a pas les bons enseignants, il y a une référence. Ah bah tiens. Et ces éléments-là, tout le long du roman, ils vont être présents et ils vont être utilisés. C'est-à-dire que pour surmonter les épreuves et les difficultés, eh ben, ce gamin, il va être amené à utiliser en contexte des contenus qu'il a appris dans les livres. Bon, ça, c'est un premier élément. Dans le niveau de subtilité d'Einstein, alors nous, en didactique des sciences, il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on a tous en tête, tous autant qu'on est, des représentations qui ne sont pas forcément les bonnes en termes de compréhension d'un phénomène. Parce qu'il y a la vie quotidienne qui mélange des tas de choses et qui fait que ça peut être difficile pour nous d'identifier les éléments pertinents. Et Einstein en joue. Alors il en joue comment ? À un moment, son gamin part sur la Lune et le vaisseau va se retourner. Donc un retournement de vaisseau, donc il accélère. Et puis à un moment, pouf, il faut ralentir et le vaisseau se retourne à mi-parcours à peu près. Et ils essayent d'évaluer le temps qu'il faut, les deux gamins, pour faire ça. Alors c'est une équation, c'est une bête équation, c'est pas très difficile à faire. Mais le gamin qui lit ça et qui se dit et si je jouais un peu à voir si ce qu'il raconte c'est vrai ou pas, il peut faire le calcul. Il le fait, et ce qui va se passer en général, c'est qu'il ne va pas trouver le même chiffre, la même durée, que ce qu'écrit Einstein. Réaction spontanée d'à peu près tout le monde, ça va être, bon, bah, il s'est planté, quoi. Bon, sauf que 150 pages après, à peu près, une centaine de pages après, il se retrouve sur Pluton, cette fois-ci, et là, il essaye d'évaluer le temps qu'il lui faudrait pour retourner sur Terre, avec une fusée qui accélère de telle façon, etc. Et là, le calcul est développé. La première fois, le calcul n'était pas développé du tout. Ils font l'estimation et on ne sait pas comment ils l'ont fait, mais quiconque veut s'y mettre ouvre un bête bouquin de mécanique et y va. Mais là, dans cette deuxième partie, il fait les calculs. Et là, on voit le gamin faire les calculs. Et en fait, dans l'écriture de ce calcul, il y a son gamin qui dit « Ah, attention, il faut faire attention, là je ne peux pas faire la somme sur la totalité du voyage parce que j'ai une équation du second degré et il faut donc que je sépare, que je découpe mon voyage en deux parties. » Et cette erreur-là, c'est l'erreur classique. C'est l'erreur qui fait qu'au tout début, le calcul fait par le gamin à peu près normalement constitué, mais pas super, enfin voilà, il faut. Et donc là où on pensait que l'auteur se plantait au départ, en fait non, l'auteur ne se plantait pas. C'est nous qui nous plantions. On se plantait parce qu'on faisait un calcul erroné. Et 100 pages après, il y a le descriptif du calcul qui permet de revenir sur le premier élément, de se dire « Ah ben mince, je me suis fait avoir ». Et ces jeux-là, on peut complètement passer à côté. On peut être dans la voiture et allons-y, on y va. Mais pour quelqu'un, pour un jeune qui est curieux, qui a envie de jouer, il y a les éléments pour jouer. Et ça, c'en est qu'un parmi une trentaine d'autres, rien que dans ce bouquin.
Bah, ce que vous dites sur la curiosité, ça me fait beaucoup penser aussi aux personnages donc, qu'a Agnès dans ses livres. Parce que dans vos livres, c'est vraiment des ados ordinaires, au bon sens du terme, qui vraiment sont de vrais adolescents et qui, peu à peu, vont commencer à se poser à chaque fois des questions sur leur monde. Dans celui qu'on n'a pas là sur cette table, qui est au-delà du mur, on a une scène, si je peux faire un mini-spoiler, super belle sur une petite fille qui découvre toute seule les principes des mathématiques qu'on lui a interdits. Et franchement, c'est une scène qui m'a serré le cœur en parlant de mathématiques quand même. Alors, c'est beau. Et est-ce que c'est l'attitude que vous voulez encourager finalement chez vos lecteurs, de questionner le monde autour d'eux, d'aller toujours voir plus loin ?
Oui, tout à fait. Alors, dans à peu près tous mes romans, j'ai des héros ou des héroïnes ignorants. C'est-à-dire que dans leur monde, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre normalement, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. En revanche, je développe beaucoup des mondes clos, notamment dans De l'autre côté du mur, dont tu parlais à l'instant. C'est un monde où, à l'origine, on ne voit que des femmes qui ne connaissent que ça, qui ne savent pas que les hommes existent, qui consacrent toute leur journée à l'art et qui ne savent pas non plus que la science peut exister. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder les choses qui, pour nous, sont normales et donc que, du coup, on ne questionne pas, de le voir avec l'œil de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Là, par exemple, donc tu parles de Aileen, qui est la meilleure amie de l'héroïne, qui est donc bloquée dans ce monde où elle ne connaît que l'art. Ce monde ne lui convient pas, mais elle n'a pas les outils pour comprendre pourquoi ça ne lui convient pas. Et on la voit développer elle-même, elle apprend à compter en fait avec les pinceaux avec lesquels elle est censée peindre, mais peindre ça l'emmerde. Du coup, elle apprend à compter, mais elle sait qu'elle n'a pas le droit et qu'elle se fera gronder si elle le fait, et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Donc l'intérêt pour moi, c'est de développer, savoir essayer de comprendre le monde autour de nous, de voir que ce qu'on connaît nous, peut-être que derrière le mur qui est plus loin, c'est complètement différent. Évidemment, le mur, les frontières, essayer de voir un petit peu comment ça se passe chez les autres, que ce soit nos contemporains, que ce soit... on peut imaginer comment ça se passerait dans le futur, dans les autres cultures, comment ça se passait dans le passé. Et vraiment, utiliser... la science, c'est plus simplement la curiosité scientifique dont on parlait à l'instant pour questionner le monde autour de nous. Et pas forcément juste pour apprendre à faire des calculs ou ce genre de choses, mais tout simplement pour apprendre qui on est, dans quel monde on vit et dans quel monde on voudrait être. Voilà.
Finalement, sans dévoiler vos intrigues, vous développez une vision très positive des innovations scientifiques, j'ai l'impression, dans vos livres. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous mettez de l'espoir dans les innovations scientifiques? Est-ce que vous croyez à un progrès, à un futur meilleur grâce à ça?
J'ai envie d'y croire. c'est pas aussi simple que ça. En revanche, c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer, moi. On a vu énormément de livres en science-fiction ces dernières années où la machine se retourne contre l'homme, ce qui est tout à fait aussi plausible, mais que c'est pas ce qui m'intéressait, moi. Je parlais avec Christopher Priest aux Imaginales qui évoquait qu'il y a trois temps, en fait, dans la façon dont la littérature s'empare d'un sujet. Il évoquait le premier temps qui est le temps de la découverte, le deuxième temps qui est le temps du sérieux, où là, effectivement, pour la notion de machine, de robot, etc., cet étang, on s'est dit, peut-être que, attention, ça peut se retourner contre nous. Et puis le troisième temps, c'est quand on commence à s'amuser avec, en fait. Et moi, c'est vraiment ce côté ludique qui m'intéresse dans les innovations, dans les nouvelles technologies, dans le jeu vidéo dont je parle notamment dans IRL. C'est le côté que ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, mais qu'en même temps, on est quand même acteur. Dans le jeu vidéo, on peut devenir quelqu'un d'autre, on peut avoir une autre vie, on peut faire des choix, les regretter, refaire d'autres choix parce qu'on est mort et on recommence autrement. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, assez porteur d'espoir en tant que personne, puisqu'on peut, dans le jeu vidéo, être quelqu'un d'autre, faire plusieurs choix, chose qu'on ne peut pas faire dans la vie. Une fois qu'on a fait un choix, faut l'assumer. Et donc c'est dans ce sens-là, oui, que je pense que ça peut aider à mieux vivre. Construire un monde meilleur, j'espère, mais je ne suis pas sûre que ça ne passe que par les machines. Il faut passer avant par les hommes.
Il y a une machine que j'aime beaucoup, et ça peut rejoindre ce que tu viens de dire, c'est la machine explorer le temps. On est dans la science qui sert la narration. Et quand on lit le roman de Wells, il y a très peu d'intrigues. Il se balade dans le temps, il avance, il se rend compte que l'humanité, ça devient ça, et basta. Mais quand on voit comment la machine a été réutilisée après, que ce soit dans le film des années 80, ou dans Retour vers le futur, et là on commence à se poser la question sur le fameux paradoxe spatio-temporel, et si tu tues ton grand-père, que se passe-t-il? Ou si tu changes le passé, et si le fameux et si what if, et si Hitler avait été pris comme aquarelliste dans son Académie des Beaux-Arts, là ça devient intéressant, quoi.
Et oui, l'Uchronie, c'est notamment une des formes qui sert à questionner le passé, à questionner la science. Globalement, j'ai l'impression que ce que vous aimez faire, c'est pousser les gens à se poser des questions, à ne pas rester sur des évidences. Michel Laframboise, dans votre blog, La Savante Folle, oui. Votre site, c'est un blog ou un site?
Oui, c'est un blog illustré avec des bandes dessinées.
Voilà, donc vous faites des bandes dessinées où notamment vous mettez des sortes de séances de dédicaces, oui. Où l'auteur va pousser certains de ses lecteurs à aller voir au-delà des apparences.
Oui. Je ne sais pas auquel tu fais allusion. Disons que c'est parce que je fais un petit peu de vulgarisation scientifique dans mon blog avec des illustrations. Fait que des fois, ça... c'était pas vraiment... Là, j'étais pas prête à parler de ce sujet-là. Mais il y a une de mes bandes dessinées, OK, sur ces grandeurs et misères de la table de dédicace. Et... j'explique que les livres, ce sont comme des bateaux. Tout à l'heure, j'ai dit que la science-fiction, c'était du chocolat. Maintenant, je dis que les livres, ce sont des bateaux. Vous avez des petits bateaux gonflables qui passent. Alors, un nageur peut y aborder facilement. Vous avez des chaloupes qui passent. Et encore là, vous êtes capable, avec un peu d'aide, d'y faire monter un nageur perdu en mer. Mais vous avez aussi des gros paquebots qui passent. Et eux autres sont plus difficiles d'accès. Il faut vraiment qu'on vous jette une échelle pour vous permettre d'aborder ce livre, ce qui est souvent sous la forme d'un lexique ou d'une liste de personnages ou d'une carte qui était dessinée au début du roman, du pays imaginaire ou de la planète. Ça, je fais souvent parce que je suis géographe de formation. C'est un réflexe. Donc, tout ça permet à votre lecteur, et c'est la même chose pour la vulgarisation scientifique, d'aborder tranquillement votre bateau pour enfin arriver et avoir une belle vue lorsque vous arrivez sur le pont.
Merci. Et aussi, quand vous, donc dans ce que vous faites en vulgarisation scientifique, vous parlez beaucoup d'enjeux plus lourds. Par exemple, donc là, on vient de parler d'optimisme avec Agnès, et vous, vous parlez notamment beaucoup de notre responsabilité dans le réchauffement climatique. Est-ce que vous ne voulez pas aussi mettre en garde parfois vos lecteurs contre les dérives possibles de la science, notamment vos jeunes lecteurs?
Je n'ai pas eu à faire ça souvent, parce que ce qu'on appelle les dérives de la science, c'est plutôt les dérives de l'indifférence. C'est les dérives des gens qui disent « Bon, ben les autres, ils vont s'occuper du problème, et voilà. » La science elle-même n'est ni bonne ni méchante. Ce sont les, disons, ce que les gens en font qui peuvent être plus ou moins positifs. Juste pour donner un autre exemple, il y a une entrée de blog où je parle de pollution et climat, du cinéma à la démarche scientifique. Et ce qui se passe, c'est que vous, le public, vous écoutez souvent des films d'action, des films de science-fiction avec le héros qui va sauver la planète à la dernière minute du film, ou une maladie étrange ou quelque chose arrive et les scientifiques, ils trouvent la cause à peu près à 30 minutes de la fin, à 20 minutes de la fin, ils développent le problème, ça va vite, puis à 10 minutes, le héros met la solution en action et ouf, la planète est sauvée, hurrah! Et dans la vraie vie, la science n'est pas aussi rapide. Vous êtes habitué à avoir la solution tout de suite. Mais dans nos romans, c'est ça. Alors souvent, il y a cette... j'essaie toujours de montrer que ben, la science, ça prend du temps. On peut se tromper. Il faut vérifier si on se trompe. Et comment est-ce qu'on vérifie qu'on valide nos connaissances? Là, je ne dis pas que je le fais dans la quête de chasse. C'est qu'il est tellement immergé dans la civilisation que vous, simplement, vous suivez le jeune homme avec toutes ses émotions en lui, les problèmes. Et oui, Chaas, il rencontre des technologies assez curieuses, entre autres un ascenseur spatial écologique. Si, si. Alors, voilà. Il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi des choses biologiques comme une migration de cactus migrateurs sur sa planète. Alors, donc, il est intégré, il est dedans. Et vous êtes dedans, vous aussi.
Oui, voilà, finalement, dans la science-fiction ou dans les Uchronies 19e donc, d'Hervé Jubert, on sent quand même qu'il y a un plaisir à créer des technologies ou pousser plus avant des technologies. Et finalement, ce plaisir aussi de créer des avenirs plus merveilleux quelque part ou des siècles alternatifs plus merveilleux. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, l'essentiel de la littérature de science-fiction jeunesse, ce côté merveilleux?
Ah, moi, je suis très clairement merveilleux. Ouais. Alors, pareil, ça me fait penser à un truc. Bon, ma première approche de la science, c'était au collège, où quand un prof de physique nous a dit que les étoiles que vous voyez dans le ciel la nuit, certaines sont mortes depuis longtemps, mais vous voyez encore la lumière. Donc, ma science, c'est ça. Il y a du merveilleux, il y a l'émerveillement dont tu parlais, etc. Et j'adore la science qui est mise en œuvre dans Star Wars, dans Retour vers le futur, etc. Et quand il y a une ouverture poétique. Voilà, aussi. Et il y en a, j'ai pas d'exemple en tête là, mais rien que le côté grimoire est totalement abscon et langue étrangère de certaines formules mathématiques, ou quand j'entends un grand pont de la mécanique quantique qui décrit ça, les quarks, que sais-je, et là, je comprends rien, mais c'est merveilleux, quoi. C'est aussi totalement incroyable. Ça, j'aime.
Et pour continuer à parler un petit peu de l'avenir, à tous les sens du terme, donc justement, vous, Agnès, qui vraiment est au milieu des jeunes auteurs, de la jeune génération, est-ce que vous pensez que ce merveilleux scientifique, ça parle aussi aux auteurs qui arrivent aujourd'hui, à ceux qui sont peut-être en train d'écrire les romans de demain? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est fort dans la littérature de l'imaginaire actuelle?
Oui, je pense, parce que donc j'ai une autre casquette à part être auteur, c'est que je suis aussi directrice de collection aux éditions Scrinéo. Donc je lis régulièrement des manuscrits de jeunes auteurs. J'ai fait partie aussi du collectif Cocyclix, qui est un collectif de jeunes auteurs qui se relisent entre eux pour s'aider à s'améliorer. Et c'est quelque chose que j'ai lu très souvent, effectivement, dans les manuscrits. Il y a encore beaucoup de science-fiction. Alors, c'est souvent une science-fiction qui est moins un futur très, très lointain. Ça va être un futur plutôt assez proche de notre société, un peu comme dans IRL, qui est en 2088, qui permet, en fait, d'utiliser les fondations de notre société et de développer certains aspects qui nous intriguent pour parler de l'aspect social que de l'aspect scientifique, mais la science devient peut-être un moyen de parler de la société, en fait. Mais c'est effectivement quelque chose que je lis encore beaucoup et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter parce que notre monde est de toute façon nourri par les sciences, par les nouvelles technologies, par ce genre de choses. Donc, comme on se nourrit de ce qu'on vit en général pour écrire, à mon avis, ouais, il y a encore de beaux jours devant lui.
Mais il y a un genre qui marche très bien en ce moment, c'est les dystopies, les Hunger Games, Labyrinthe, etc. Et c'est de la science-fiction sociale.
Mais
c'est, voilà, on est dedans, quoi.
Moi, je voudrais revenir sur la vulgarisation scientifique. On a parlé pas mal de la vulgarisation pour les jeunes, mais on a évidemment aussi la vulgarisation pour les adultes, et c'est au moins aussi important à mon sens. Et là, on a encore quelques auteurs de ce qu'on appelle maintenant la hard SF, la science-fiction dure, qui... On parlait tout à l'heure de... Est-ce que la science-fiction touche un public... un tout public ou un public un peu spécialisé. Moi, j'avais envie de revenir sur Greg Egan, qui est un auteur qui, pour le coup, va très loin dans la hard SF et qui arrive à créer, ou Stephen Baxter d'ailleurs, hein, qui arrive à créer un sentiment de merveilleux et de poésie à partir de sciences de très haut niveau. On peut parler de mécanique quantique, on va parler de relativité générale, on va emmener les gens au cœur d'étoiles et en même temps on va leur faire passer un certain nombre de contenus, là pour le coup de contenus scientifiques plutôt, voire parfois de démarches également, mais du contenu qui laisse percevoir au lecteur en tout cas un monde qui est complètement extraordinaire et qui en même temps est aussi le nôtre.
Juste si je peux faire le pendant jeunesse de ce que tu viens de dire, on peut pas quand même dans cette conférence ne pas citer Christophe Galfard avec sa trilogie du Prince des Nuages, qui réussit l'exploit, je trouve, de faire un roman d'aventure, un genre de dystopie qui se passe dans un monde merveilleux au-dessus des nuages, donc qui est absolument passionnant. Et qui, de temps en temps, quand il explique un phénomène météorologique, notamment sur la formation des nuages, le vent, etc., fait une petite pause, le temps d'une page, en fait, pour expliquer techniquement et très simplement comment ça se passe concrètement, et qui, du coup, permet d'apporter là du contenu scientifique aussi aux plus jeunes, de manière tout à fait ludique et sans vraiment... On n'a pas l'impression de couper l'histoire, en fait. Pour nous, c'est simplement une petite parenthèse qui nous permet de mieux comprendre... concrètement ce que le héros est en train de vivre, et je trouve qu'il fait ça très très bien.
Ça a marché avec moi parce que je suis devenue géographe et par la suite ingénieur civil spécialisé en environnement parce que j'ai été intéressée aux sciences par les livres d'aventure de science-fiction et les images aussi. Donc ça a fonctionné avec moi.
Finalement, c'est vous voulez que votre lecteur ou que le lecteur du roman jeunesse qui parle d'innovation technologique, qui parle de science, qu'est-ce que vous lui souhaitez comme destin plus tard? Est-ce que vous pensez que c'est des romans qui peuvent donner de futurs scientifiques? Est-ce que c'est des romans qui peuvent donner de meilleurs êtres humains? Est-ce que c'est...
Je le dis juste parce que je venais de... Oui, meilleurs scientifiques, peut-être. Des êtres humains plus empathiques, certainement.
Oui, moi je ne cherche pas forcément à créer des meilleurs scientifiques plus tard, parce que je ne suis moi-même pas scientifique non plus, même si j'ai fait un bac scientifique, j'ai vite abandonné l'idée de faire ma carrière là-dedans. Donc simplement voilà, un être humain plus curieux, qui ne va pas se dire forcément que la science c'est pas pour moi juste parce que j'arrive pas à faire des sciences en classe, parce que c'est bien plus que ça, qui va du coup peut-être chercher à s'intéresser à la partie de la science qui va lui parler à lui, juste pour pas qu'ils se mettent des barrières tout seuls, en fait.
Robert Heinlein avait, avait une formule que je trouve très jolie. Son objectif, c'était de former les citoyens, les futurs citoyens de la galaxie. Et cette formule, je l'aime beaucoup parce qu'on ne peut pas être un citoyen complet aujourd'hui si on n'a pas compris un minimum de méthodes scientifiques. Vous disiez tout à l'heure qu'on est dans un monde qui est baigné par la science et la technologie. Ne pas comprendre les... on n'a pas besoin d'être un expert, hein, mais ne pas comprendre les bases de cette démarche, c'est se priver d'un élément fondamental de compréhension de notre monde d'aujourd'hui. Et l'expression citoyen de la galaxie, je l'aime bien, parce qu'elle prolonge les choses, non pas seulement sur Terre. On a beaucoup tendance aujourd'hui à ne plus se projeter en tant qu'être humain dans l'espace, dans l'ailleurs, mais chiche. Et ça, je pense que c'est aussi au romancier, je dirais, de continuer à nous faire rêver et nous projeter un peu dans un ailleurs, non seulement sur la Terre, mais aussi plus lointain. Donc voilà, c'est des idées au passage. Moi, je n'écris pas de romans, mais il y a des tas de romans que j'aimerais bien avoir écrits dans cette direction.
Moi, je ne suis pas auteur de SF, donc je ne sais pas si je peux répondre, mais je sais que je ne suis pas devenu auteur de SF parce que j'étais nul en science, et je ne voulais surtout pas me retrouver dans la position de l'auteur qui est face à un lecteur qui le traite d'imposteur. Genre, vous avez écrit ça, mais vous n'y connaissez rien, monsieur. Donc là, donc voilà, j'ai évité cet écueil-là en n'en faisant pas, tout simplement.
Ah, ce que je peux juste dire à vous, le public, que vous soyez scientifique ou non, pensez à votre information comme de l'eau que vous buvez. Vérifiez vos sources, mes amis. C'est déjà un premier pas. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes un artiste, un écrivain, vous êtes un enseignant. Que vous connaissiez ou non le domaine, vérifiez vos sources avant de paniquer ou n'importe quoi. J'avais une autre chose à dire. Je l'ai oublié.
Ben, j'allais juste dire, comme on dit sur Internet, on dit plus un dans ces cas-là quand on est d'accord. C'est aussi un peu le message qu'on peut véhiculer, notamment sur les réseaux sociaux. Alors pas forcément par rapport à la science, ça peut être n'importe quel article qui parle du monde, qui parle de littérature, etc. Effectivement, oui, vérifier les sources parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup de gens parlent sans savoir. Ça peut être notre cas aussi, donc... Plus on est nombreux à faire attention à ça et moins de bêtises circuleront sur les réseaux
sociaux.
Merci beaucoup à vous quatre. On a, je crois, 5 petites minutes. Il y a des questions dans la salle, donc n'hésitez pas. Question. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions...
Allez, question. Ne soyez pas gênés. Une question.
Non ? Ah, si, une question au fond, là-bas.
Alors, concernant l'humain et les humanismes, le travail sur soi, les connaissances de soi, les connaissances d'autrui, l'empathie, tout ça. Donc, pendant ces quatre jours, ça a été très central. Et je me pose la question... d'une science-fiction du langage, d'une science-fiction de la sophistique, d'une science-fiction de l'art de communiquer ensemble et de hiérarchiser aussi les sources justement de communication et les sources des sourires, les sources des suavités, les sources de la façon de parler d'une façon douce, etc. etc. Et donc la question que je me pose, est-ce que vous avez des références à me donner au-delà de 1984 ou d'autres sur cette science-fiction de la sophistique?
Je suis en train d'en lire un en ce moment, mais il est en anglais. Mais pour donner un exemple de science-fiction où le langage modèle... Il y a nos romans aussi qui ont certainement une composante de langage, et effectivement, en ce moment, je suis en train de lire une trilogie de Robert G. Sawyer qui s'appelle, Quintaglio Ascension. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des dinosaures intelligents qui ont une civilisation sur une planète éloignée, mais qui sont à l'époque de l'équivalent de l'époque de Galilée. Mais tout le langage
de ces dinosaures. Et tous les gros mots, par exemple, ils disent légumes, vegetables, parce qu'eux autres, les légumes, ça les rend malades. Ils ont un élevage, ils ont... Et tout le langage est vraiment culturellement tourné. Et ils croient que leur terre est plate et va arriver un jeune qui est plus curieux et qui va utiliser la méthode scientifique, mais tellement expliquée simplement. C'est un excellent cas de vulgarisation. Et pour arriver à conclure, ah ben non, on n'est pas sur une, on n'est pas sur un endroit plat, on est sur une, notre monde il est rond, puis en plus c'est une lune. Enfin, vous le lirez.
Merci Michel.
Oui, moi j'ai, alors mon problème c'est que quand je me rappelle l'auteur, je me rappelle pas le titre et réciproquement. Mais vous avez une nouvelle de Serge Lehmann qui est magnifique. Qui parle de langage et de langage qui, en fait, on cherche à le simplifier. Alors, je suis peut-être en train de confondre entre Serge Lehmann et Roland Wagner. De toute façon, je vous invite à lire les deux, qui sont deux auteurs superbes. Mais c'est une histoire où on cherche à simplifier le langage et quand on n'a plus le mot pour dire une chose, la chose disparaît. Et donc, ce sont des gens qui se sont protégés comme ça des envahisseurs en faisant disparaître typiquement la notion d'envahisseur. C'est une très belle nouvelle. Sinon, il y a Ted Chiang, il me semble, qui n'y a pas très longtemps, a écrit une très très belle nouvelle aussi, où là, on cherche à comprendre le langage d'extraterrestres, et la compréhension de leur langage modifie complètement notre perception du temps et de la réalité, en jouant évidemment avec l'idée que le langage modèle le monde dans lequel on est. Enfin, voilà quelques pistes de lecture d'auteurs récents sur cette question du langage.
Merci beaucoup Estelle et...
Enfin, moi, ça me fait penser aux Fables de l'Impur de Pierre Bordage, où il a inventé un monde habité par des espèces de chimères biologiques et un style. Et un style à part, vraiment, c'est du jamais vu nulle part ailleurs. Et là, c'est tout est langage autre, du fait que les créatures vivantes sont autres.
Merci. Un petit mot de la fin, Alias ?
Non, je n'avais pas forcément de choses à rajouter sur cette question-là. J'aurais cité aussi les Fables de l'Impur ou 1984, mais c'est déjà fait, donc je m'incline.
Voilà. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop le temps pour une autre question. Je voulais remercier beaucoup donc, notre panel. Et vous pouvez retrouver nos auteurs en dédicace à la librairie à côté. Donc n'hésitez pas, plongez-vous dans vos romans et ils vous mettent vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça vaut la peine.
Merci.
Merci.